création
on air.
On air.
On air.
Creation on air.
Bonsoir. Le pari cette nuit est de s'aventurer dans ce qu'on appelle les stations fantômes du métro parisien. Certaines ont été fermées lors de l'entrée en guerre en septembre 1939. D'autres ont été construites et finalement leur inutilité a fait qu'aucun accès public n'a été envisagé. Il y a aussi ce qu'on appelle les quais morts, comme celui de la station Saint-Martin, celui des Invalides, où s'entraînent les apprentis conducteurs, celui de la Porte Maillot, où s'effectuent bien des réparations. Comment résister à l'appel de ces lieux clandestins, par la force des choses, au cœur de Paris? La ligne fantôme, Céline Duchesnay, Laurent Polleré, création On Air.
Je suis à Strasbourg-Saint-Denis, sur le quai de la ligne 9, direction Porte de Montreuil. C'est calme. J'attends qu'un métro passe, ramasse les voyageurs. Je descends dans le tunnel. Je trotte. Je vais jusqu'à une première niche de sécurité. J'attends qu'un métro, le métro suivant, passe. Et je vais jusqu'à la station qui n'est vraiment pas loin, à 100, 200 mètres. Elle est très sombre. Il y a bien sûr quelques ampoules, de vieilles ampoules qui font une lumière orange. Je monte les trois marches en fer, j'arrive sur le quai et je découvre ce vieux graphe que je voyais depuis 6 ans. À chaque fois que je passais en métro devant cette station, j'avais les yeux collés à la vitre pour regarder justement. Et à chaque fois, je voyais un graphe, mais ça passait trop vite. Je savais que c'était un graphe très très ancien. Et là, j'étais devant, pour la première fois. Je l'ai bien observé. J'ai tout de suite eu une date dedans, 1986. Avec un personnage qui tenait une bombe à la main. J'ai continué dans la station, regarder les autres graphes. Et j'ai déambulé dans cette station, en me cachant des rames de métro qui passaient. Entre deux métros, je me permets de les prendre en photo. Un Acro, un Omega, Aurel, Krone, tous ces vieux tags qui m'ont fait rêver quand j'étais petit, et qui m'ont donné envie de faire la même chose. Le bruit du ventilateur au loin, très présent. On entend les métros arriver. Ça me laisse le temps de me cacher. Derrière une guérite, derrière un mur, dans l'escalier. Dès qu'il est parti, je reviens sur le quai. Je prends mon temps, je déambule. J'imagine les voyageurs du début du siècle. Je suis parmi eux. Je suis avec eux. Je suis un fantôme dans cette station fantôme. Parmi les fantômes. Des trains fantômes, remplis de fantômes. Les voyageurs ne font pas attention. Justement, je les regarde et je vois bien qu'ils sont dans leur bulle. Ne se doute pas que quelqu'un est là, à les observer. Cet instant furtif.
Basset, vous entendez ce mot « station fantôme », qu'est-ce qui apparaît sous vos yeux ?
En règle générale, la RATP, les historiens, etc. n'aiment pas trop ce terme parce qu'il est un peu justement spectral, il renvoie à des choses fantasmatiques, des choses d'échec aussi, la mort, qui correspond exactement à la sensation qu'on peut avoir en imaginant ces stations, parce que c'est des stations qui passent comme des spectres en fait quand on est dans le métro. On voit par la fenêtre des couloirs qui se ferment très vite, on voit des espaces, on passe des fois devant des stations qui sont fermées ou qui ont l'air abandonnées depuis longtemps, mais on le voit en deux secondes, en fait, vraiment comme une apparition. Donc c'est vraiment, y a vraiment une manifestation spectrale, et ça correspond très très bien à ce que ces stations représentent, puisqu'en fait, c'est une sensation avant d'être des lieux, en fait, puisque aucun voyageur du métro ne sait les situer, sait qu'il y a des stations fantômes parce qu'il les entreaperçoit, mais comme une apparition. Donc elles flottent en fait comme des spectres le long des lignes, exactement comme un fantôme se promène dans les couloirs désertés d'un château. Et elles sont difficilement identifiables, on ne connaît pas leur histoire, c'est le frémissement, un frémissement d'architecture comme le bruit d'une cape de fantôme qui glisse sur des dalles de pierre, c'est vraiment ça, ces stations, c'est vraiment ça. C'est pas des lieux, en fait, c'est des visions, c'est des fantasmes. Pour tout le monde sait qu'il y a des stations qui sont pas utilisées dans le métro parisien, mais à part ces apparitions, très peu de gens en font l'expérience concrète, en fait. Pour moi, c'est un terme très approprié à l'expérience très particulière que sont ces stations.
Je n'ai jamais vu de station fantôme parce que je ne savais pas qu'elles existaient. D'ailleurs, si aujourd'hui vous parlez de station fantôme au Parisianis vulgaris homo sapiens qui existe, il ne connaît pas. On ne parle pas de ces stations fantômes. Il faut que ce soit des gens comme vous qui veniez finalement fouiller dans le mystère pour les faire ressortir. La RATP elle-même n'en parle pas, ne cultive pas le genre, ce n'est pas visité, ce n'est pas visible, et il faut avoir l'œil sûr et le chronomètre précis pour arriver, quand on les franchit, à les repérer dans le noir. On s'aperçoit subitement que les lumières de la rame ne se projettent plus sur un mur, mais se perdent. Ah, là, il y a un vide, il y a un noir, il y a un creux, donc peut-être une station fantôme.
Le terme de station fantôme, pour moi, est une sorte de prélude au cimetière. Vous savez, le monde avant le métro était un monde à la surface du sol. On n'allait pas sous les villes. Et le métro a créé une nouvelle dimension, une troisième dimension, vers le dessous, vers le sombre, vers le sinistre, je dirais vers les tombes finalement. On descend dans le monde, c'est Orphée et Eurydice, c'est le monde des enfers. Le métro me faisait peur quand j'étais petit, c'est ces escaliers lesquels il fallait descendre, les stations étant donc souterraines. Et puis aussi, je dirais qu'il y avait dans ces stations des couloirs. Plus encore, dans les tunnels depuis les rames du métro, on voyait des lignes qui partaient dans des couloirs qui tournaient très fortement. Je me demandais vers où cela menait-il, toutes ces choses-là, quelles machinations mystérieuses il pouvait avoir, quels étaient ces gens qui travaillaient là. Est-ce que c'était des forgerons infernaux, des dieux, vous voyez, des vulcains finalement en train de taper sur... Pour moi, le métro, c'était tout ça, et c'était interdit d'aller là. Il fallait rester sur le quai, monter dans la rame, s'asseoir sagement, ne pas donner de coup de pied à la dame qui était assise en face. Donc, quand j'étais petit, et j'avais tout juste le droit de regarder par la fenêtre les tunnels avec ces câbles qui montaient, qui descendaient à toute allure, parce que vous savez, les câbles ne sont pas tirés droit. Ils pendent un petit peu entre chaque support. Donc, il y avait une espèce de valse mystérieuse, je dirais presque une danse mortuaire. Le métro me faisait peur.
Du matin, ligne 4, station Château Rouge. Les stations de métro ressemblent à des salles obscures. Sur leurs vitres occultées par les tunnels se projettent toutes sortes de reflets. Des passagers surpris dans leur lecture, des regards dérobés et des gestes furtifs. Parfois, ce cortège de fantômes est éclipsé par une apparition fugitive. Quelques mètres de carreaux blancs qui envahissent l'écran noir et persistent une seconde sur la rétine. Ces limbes métropolitaines ne laissent le plus souvent aucune trace. Elles passent si vite qu'on doute de les avoir vues. Comme les spectres, c'est dans la durée qu'elles s'imposent. On passe et repasse au même endroit, et régulièrement le noir des galeries s'éclaire d'une lueur frissonnante, comme une paupière qui réprime un battement involontaire. On ne distingue rien pourtant, des pans de murs blancs, un sol moiré et des tuyaux qui serpentent. Pour voir quelque chose, il faut attendre la panne. Celle de signalisation peut suffire, mais la régulation du trafic, voire l'incident voyageur, grave si possible, sont nettement préférables. Ce n'est qu'immobile et privé de lumière que l'on verra derrière les vitres se déployer des étranges grottes que la vitesse habituellement chiffonne. Ce sont des stations en tout point identiques à celles entre lesquelles on circule, à cette différence près que l'on n'y distingue pas de voyageurs ni d'ouvriers. Ce sont des plateformes pour rien. Des quais sans usage. Dans l'univers ultra-balisé du métro où tout est signalé, fléché, chiffré, ces bulles noires parlent d'un autre monde. Elles coulissent le long des lignes, n'ont ni lieu ni nom. On ne sait même pas pourquoi elles sont vides, ni même si elles ont déjà servi. On ne peut qu'imaginer que pour chaque station entrevue, il en existe d'autres, plus profondes, plus inaccessibles. Et on déplie tout un plan de métro fantôme, négatif des cartes aux entrelacs colorés. Un plan qui n'accélère pas la ville, mais au contraire la ralentit. Un plan de non-circulation. Une carte de désorientation où le mouvement pendulaire des trains ne serait qu'un spectacle et la rumeur des rames un ressac lointain.
Un ami me parle de la station Porte Molitor. Il me dit qu'on peut y accéder par le tunnel, la station Michel-Ange Molitor. La ligne 10 passe d'un côté, et il y a une voie de garage sur ce quai de Michel-Ange Molitor. Je descends dans le tunnel. Aucun risque qu'un métro arrive, vu que ce n'est pas la ligne de service. Il tourne sur la droite, et là un embranchement sur la gauche. On m'a indiqué que c'est ce tunnel qu'il fallait prendre. Je l'emprunte, et assez vite, la voie unique se sépare en deux, et on devine qu'il y a un quai derrière. J'emprunte une des deux voies, droite ou gauche. Je monte ces trois petites marches. Je suis sur un large quai central avec des métros de chaque côté. Sous tension. Magique. Il n'y a aucun escalier. Que pour venir ou repartir, forcément par le tunnel. Comme un jeu de piste. J'ai l'impression d'être privilégié. Personne ne peut venir ici. Des métros sous tension. L'écho des pas sous la voûte. Les pas sur les planches en bois. Comme sa petite sœur Axo, aucune issue n'a jamais été construite. Elles n'ont jamais vu le jour.
En fait, ce qui est sublime dans ces stations, c'est que le fantasme se densifie. Je vais filer la métaphore fantomatique. En règle générale, quand on course un fantôme, le fantôme s'agrandit et prend de plus en plus des proportions de plus en plus importantes. Ce qui est très beau dans les stations fantômes, c'est que quand on y entre, leur histoire et la raison pour laquelle elles sont fantomatiques, elles ont été abandonnées, n'est pas du tout évidente. Il y a très peu de traces, il y a des fois des publicités d'un autre temps, il y a des outils, des box, il y a des fois des graffitis, mais rien qui n'explique pourquoi une construction aussi durable et aussi manifestement pensée a été abandonnée. Il y a On On n'a jamais, comme dans les maisons abandonnées, la sensation que les habitants sont partis très vite. Dans les maisons abandonnées, il y a tous ces détails assez bouleversants où on peut voir encore des meubles ou des places blanchies sur les murs où étaient des posters, des photographies, etc. Il n'y a pas ça dans les stations fantômes, ce qui évidemment rend la chose encore plus mystérieuse en fait. C'est vraiment, pour moi, ces stations-là, avec se promener dans des bâtiments en construction, c'est probablement l'expérience la plus proche de celle de se promener dans une ville désertée ou détruite ou pétrifiée, sans qu'on sache exactement ce qui s'est passé. En fait, il y a vraiment une sensation de quasiment d'égyptologue, en fait, de rentrer. D'abord parce que la traversée est très longue, des tunnels, des mastabas, etc. Et quand on arrive enfin à la chambre, le mystère ne se dissipe pas, en fait. La fiction se densifie et l'apparition prend presque une solidité sans qu'elle ne délivre aucun savoir, en fait. Mais la station ne donne rien, ne donne aucune réponse, elle se contente de multiplier les points de fuite, en fait. Et il y a une sensation très forte dans ces stations, c'est qu'on entend le bruit du trafic au loin. Si on peut y aller, c'est qu'elles sont encore connectées au réseau, à part quelques-unes. On entend le bruit du trafic au loin et vous êtes dans une espèce d'échange de masse et d'échange de sons, et vous voyagez en fait. Et dans les stations fantômes, c'est exactement ça, parce que vous entendez les trains passer, vous ne savez pas très bien où ils passent, vous en voyez très peu. Alors, il y a quelques stations où il y a vraiment un quai où on vous voit vraiment passer les métros, mais en règle générale, elles sont plus retranchées du réseau. Et donc on entend bruire le trafic au loin, on est vraiment comme dans une cabane ballottée par les vents.
Ces stations sont la conséquence, vous savez, comme dans la nature. L'évolution des espèces fait croître et disparaître parfois des organes, voire même des espèces, des animaux, qui sont, je dirais, à la fois paradoxaux et souvent inutiles. Alors, l'évolution du métro parisien a fait apparaître ces stations et les a fait disparaître, parce que une ville évolue continuellement. Forcément, le métro, qui est son système cardiovasculaire, évolue aussi avec l'organisme, et il y a des lignes qui naissent, des lignes qui meurent, des lignes qui se déplacent. Alors, il est parfois beaucoup plus difficile de déplacer une station plutôt que de raccorder une ligne à une autre. Donc, évidemment, souvent, des stations se sont retrouvées, finalement, bêtement oubliées, en train de faire de la tapisserie ou de participer au bal. Finalement, ces stations-là sont devenues fantômes pour une simple, je dirais, évolution du trafic, une évolution de l'habitat. Il y a des quartiers qui se dépeuplent, des quartiers qui se repeuplent. Et donc, tout ceci a fait que ces stations sont donc apparues. Ce n'est nullement un gaspillage. Ce n'est jamais apparu à la Cour des comptes. La RATP et jadis la compagnie du métro parisien n'ont jamais creusé des stations pour rien. Il y en a certaines qui ont été à peu près terminées sans avoir jamais été ouvertes, parce qu'il faut quand même de nombreuses années pour les faire. C'est fait à la main, au pic, à la pioche, à la pelle. Il n'y avait pas d'engin d'excavation, comme jadis. Et alors ces stations, il leur faut des années pour les faire, et très souvent, en 2, 3, 4 années, l'inutilité de la station était peu à peu donc démontrée, constatée. C'est ce qui est arrivé pour Axo, ce qui est arrivé pour Porte Monitor. Elles ont été terminées, mais jamais ouvertes, et n'ont jamais eu leur couloir d'accès.
Mais Clive Lamming, si on devait donner une définition de ce terme, station fantôme?
L'entomologiste métropolitain que je suis vous dirait qu'il y a trois catégories. Les stations fantômes, ce qu'on peut appeler dans le fond les vraies, celles qui n'ont jamais servi. Ensuite, il y a celles qui ont servi et qui ont été fermées, sont donc devenues des fantômes. Et il y a une troisième catégorie, ce sont celles qui ont cessé d'être des fantômes, elles ont été fermées, elles ont été rouvertes. Donc voilà les trois catégories. Évidemment, les stations de la troisième catégorie aujourd'hui ont repris leur place dans le bal des stations, donc elles sont fantômes, mais elles l'ont été à un moment donné. Donc elles apparaissent sur les plans, elles apparaissent, elles ont été transitoirement fantômes.
« Clive Lamming, est-ce que vous pourriez nous dresser la liste des stations fantômes parisiennes ?
La Défense Michelet, c'est la ligne 1. Elle n'a jamais été ouverte, mais le gros œuvre a été réalisé, ça c'est exact. Elle a été partiellement construite. C'est une station récente. Élysée La Défense, toujours la ligne 1, jamais ouverte non plus, et exactement le même cas que la précédente, même motif, même punition. Porte Maillot, ligne 1, construite en 1900, oui, et déplacée donc en 1937 pour cause de prolongement de la ligne 1 vers la banlieue. Alors Axo, jamais ouverte, et seul le quai a été construit, le quai et la voûte. Elle devait être située sur les lignes 3 bis et 7 bis. Elle aurait donc fait la jonction entre ces deux lignes, entre deux boucles. Porte des Lilas, ligne 3 bis et 7 bis, construite en 1921 et fermée en 1971. Il faudra que je regarde ça de plus près. Les Halles, ligne 4, construite en 1908 et déplacée en 1977. Ça a été merveilleux ce déplacement, puisque les gens étaient habitués à une station. Et le lendemain, dans la nuit, on a donc fermé la station ancienne. On avait l'autre qui était construite depuis longtemps. Et le lendemain matin, tout le monde, suivant les couloirs habituels, lisant le journal, rentrait dans les murs. Enfin, vous voyez, c'était une confusion qui est restée tout à fait lyrique. Ensuite, Arsenal, ligne 5, construite en 1906. Elle a été fermée en 1939, donc pour cause de crainte de l'extinction de la vie économique pendant la guerre. Mais elle n'a jamais été rouverte. Orly Sud, ligne 7, ça c'est récent, jamais ouverte. Et celle de gros œuvres a été faite, puisque Orly, finalement, a été desservi par un val, vous voyez, depuis la ligne B du RER. Champ de Mars, ligne 8, construite en 1913 et fermée en 1939 avec la guerre. Invalide, ligne 8, donc le fameux quai mort de la boucle chère à Fulgence Bienvenue, qui n'a jamais été, la boucle n'a jamais été construite, donc finalement le quai est resté, et il se raccorde d'ailleurs au quai de la ligne 8, simplement dans le tunnel, vous voyez, il se raccorde. Saint-Martin, ligne 8 et 9 superposées, construite en 31 et fermée en 39, donc pour cause donc, de guerre, la Seconde Guerre mondiale. Porte Molitor, ligne 9 et 10 jamais ouverte, et seul le quai a été construit. Brunesseau-Masséna, ligne 10 jamais ouverte, et le gros œuf seul a été commencé. Alors ça, c'est une station actuelle, enfin c'est une station récente. Carrefour-Croix-Rouge, ligne 10, construite en 23 et fermée en 39 pour cause de Seconde Guerre mondiale et trop grande proximité avec Odéon, vous voyez. Porte de Versailles, ligne 12, construite en 1910 et déplacée en 1930. Oui, quelque peu déplacée. La ligne 12 s'appelait la Nord-Sud. C'était une ligne privée construite par un ingénieur lyonnais qui s'appelait Berlier, IER, hein, pas les camions, Berlier. Et il s'est ruiné, il a construit cette ligne entre 1910 et 1930, le jour où la ligne est terminée. Elle est en faillite. Et le mort dans l'âme, il donne les clés à la CMP, future RATP. Donc cette station a été quelque peu modifiée, mais elle est quand même toujours bien à la même place, Porte de Versailles.
Nathalie Lemeur, où sommes-nous très précisément ?
Donc, nous sommes actuellement dans la gare fantôme de la Défense, dans la station qui aurait été appelée Élysée la Défense. Donc, nous sommes sous les parkings des 4 temps, sous le dernier niveau des parkings des 4 temps. Cette gare fantôme est une gare qui n'a jamais été utilisée, qui est une réservation qui avait été prévue dans les années 70 par l'EHPAD. Quand se posait la question de la prolongation ou non de la ligne de métro 1.
Est-ce que vous pourriez nous prêter vos yeux pour nous décrire l'endroit où nous sommes ?
Je regarde un petit peu. Donc on est dans un endroit qui est à la fois
bétonné et naturel, puisqu'on a, on a une structure en émergence de poteaux, de plafonds, de poutres en béton. Mais on voit, on marche sur le sol qui est composé plutôt de terre, on voit encore les empreintes des personnes qui ont pu circuler ou marcher. On voit également sur les parois de la terre ou de la roche. On a quand même, on voit que ça a été un petit peu aménagé pour pouvoir descendre, terreux et bétonné à la fois. Le sol est pas mal jonché de matériaux de construction en bois, béton. On sent que voilà, le chantier a été nettoyé assez rapidement au dernier moment et que les gens sont partis, ont laissé certaines choses sans que ce soit finalement livré à un quelconque usage.
Qu'est-ce que ça vous inspire au niveau, je dirais presque, de vos impressions? Qu'est-ce que vous ressentez?
En fait, c'est assez calme, donc plutôt de la sérénité ou du calme, parce qu'on entend beaucoup moins de choses. Les bruits sont sourds, on entend un petit peu des circulations quand on prête l'oreille. Un certain mystère. Alors, c'est le jeu de lumière qui fait ça, on a des spots et en fait, on voit rien au bout. Donc, on voit pas où est-ce que ça se termine au final. On a un peu l'obscurité et on ne sait pas si est-ce que ça se continue. Donc, un peu le mystère de l'endroit où on aperçoit une structure assez... assez imposante, assez importante, mais on ne sait pas jusqu'où elle va.
Qu'est-ce que vous entendez, Nathalie Lemeur, quand vous êtes ici?
Alors, on entend surtout du silence. Quand on prête l'oreille, on a un bruit sourd, comme une circulation de train ou de voiture, comme s'il y avait une route ou un tunnel pas loin. On entend des petits, de légers bruits, comme des gouttes d'eau ou... Alors c'est très très léger, un petit peu que l'imagination joue un petit peu. C'est plutôt la rumeur d'une circulation, alors que c'est une circulation de véhicules, d'un train ou une circulation d'air, tout bêtement. On entend forcément les bruits des pas qui sont très présents, des personnes qui marchent autour de moi, puisque le silence est très 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 présent, donc le moindre bruit est tout de suite remarqué. Cet endroit a été très invisible, très préservé. La différence d'autres volumes sous dalle qui existent à la Défense, puisqu'il est accessible uniquement par une trappe fermée. Il n'y a jamais eu d'usage, il y a un seul accès qui est plutôt maîtrisé. Donc pas d'usage particulier, pas d'activité particulière. Il a été tenu très à l'abri des regards, et il a été ou même oublié.
h 30, ligne 8, station Chemin Vert. En dehors des lignes aériennes, le transit souterrain reste largement invisible. On ne connaît du métro que son plan d'usage, répété sur tous les quais. Des tunnels, des échangeurs, des plateformes, on ne sait rien. On ne sait même pas quelle route on emprunte, ni sous quel immeuble on passe. On voyage seulement de mot en mot, de Saint-Germain à Alésia, de Villiers à Clichy. Les quais désertés des stations fantômes proposent un autre voyage. Et c'est pour cela qu'on veut y aller. Les graffeurs convoitent leurs murs encore vierges, et les amateurs de sensations fortes, l'expérience l'interdit. Mais nous, c'est le corps creux de la vitesse que l'on cherche, le lieu qui va transformer le métro en paysage. Descendre dans une station fantôme est une expérience proprement labyrinthique. Comme dans les jeux de patience, on voit nettement le centre que l'on doit atteindre, mais impossible dans le dédale de couloirs de trouver celui qui y mène. Ces rebuts de réseau sont cachés derrière les cloisons. Pour les ingénieurs, ils sont synonymes d'échecs. Comme un vêtement, un bon système de transport doit épouser le corps des passagers. Une station morte, c'est comme une chute de tissu, le signe indubitable d'un gâchis. Pas d'autre solution donc que de faire les poubelles du métro. C'est là, dans le désordre des cul-de-sac et des tunnels de raccordement, que l'on finira par trouver une station fantôme. Lorsque l'on atteint son quai poussiéreux, on remarque les vieilles publicités et aussi les carreaux encrassés qui ont servi d'ardoise magique à tous les visiteurs. Mais surtout, il y a le nom. Ce nom que l'on n'a jamais vu sur aucun plan de métro et qui pourtant trône bien en vue sur le quai, au point qu'il semble que l'on avance dans un décor de cinéma. Une station de carton-pâte derrière laquelle se cache Perchman, éclairagiste et metteur en scène qui dans un instant vont interrompre notre rêverie d'un coupé autoritaire. Une de ces stations mortes, située sous la Porte des Lilas, sert effectivement de plateau de cinéma. Elle apparaît sous le nom d'Abbesse, dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et aussi dans Three Days to Kill, sous le nom de Ségur. Mais dans toutes les autres, à Arsenal, à Axo, Croix-Rouge, Saint-Martin et Molitor, il n'y a pas de coulisses. Rien qu'un quai vide qui n'a jamais vu de train.
D'angle mort, pour moi c'est tout l'intérêt du lieu en fait, c'est que c'est des puits sans fond en fait. Contrairement aux stations utilisées qui elles sont bornées, qui ont un objet, etc., on se voit pas traîner deux heures à Charles de Gaulle Étoile, ou au bout d'un moment la chose s'épuise assez vite. Alors que dans une station fantôme, on peut y rester très longtemps, précisément parce que l'expérience se renouvelle, parce que un détail va permettre de construire des fictions, etc. Donc c'est, pour moi, il n'y a pas d'expérience plus forte que d'être dans un endroit fonctionnel et utile qui a perdu sa fonction. Parce que ça veut dire que brusquement, ce lieu-là échappe à l'ancrage territorial, en fait. Ça devient un lieu mental. C'est ça, en fait, qui est beau dans les stations fantômes, c'est qu'elles deviennent des lieux mentaux, en fait. Elles n'ont pas vraiment de place. Par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup fait avec les stations fantômes, c'est essayer de les situer, en fait, mais depuis la surface. C'est extrêmement beau quand vous y arrivez. Alors, moi, j'y arrive pas pour toutes, mais il y en a quelques-unes. Vous savez que vous êtes à un endroit, et sous vos pieds, il y a un corps creux. Je trouve ça complètement incroyable. Celle qui me fait vraiment cet effet-là, c'est l'aire de retournement qui est sous le parc Monceau. Le sous-sol du parc Monceau est largement creux, en fait. Il y a un gigantesque tunnel qui était autrefois utilisé pour retourner les métros. Je trouve ça sublime de se balader dans le parc Monceau et de se dire qu'en dessous, il y a justement cette galerie qui se promène, qu'on n'est pas exactement capable de situer, mais dont on voit à peu près les grandes lignes. Et donc, c'est vraiment ces habitacles flottants qui bougent sous la surface de la ville. C'est ça qui est beau.
Le PCC pour le CDT. C'est pour t'informer que je vais couper l'alimentation de la position 3E.
Porte-Maillot, c'est compliqué. Porte-Maillot, lors de la construction de la ligne 1, est une station terminus en boucle. C'est la toute première théorie, celle du métro. Les rames doivent toujours rouler dans le même sens. Donc la ligne 1, il y a une boucle à Vincennes et une boucle à Maillot. Les rames tournent dans le même sens parce qu'il y a une motrice et des remorques. Puis après, on s'est aperçu que c'est très compliqué. Il fallait loger, qu'on ne se faisait pas sous les maisons. Donc, vous imaginez, donc la station Porte-Maillot est construite sous l'avenue. À Vincennes aussi, Château de Vincennes, on construit sous l'avenue. Donc, ça fait des boucles avec un rayon extrêmement serré. Vous voyez, toujours pareil, c'est du tramway. Donc, ça marche. Et puis, peu à peu, on abandonnera assez rapidement cette solution en préférant les stations en cul-de-sac, c'est-à-dire à heurtoir, et les rames qui vont et viennent. Alors donc, Porte-Maillot étant à sa boucle, et puis en 1937, la ligne est prolongée jusqu'à Pont-de-Neuilly, et après, et plus récemment, jusqu'à la Défense. Seulement, prolonger la ligne, si on reste au niveau de la boucle, on se retrouve en plein au niveau du chemin de fer de la Petite Ceinture, qui est au même niveau, au-delà d'un mur. Donc il faut descendre, passer sous la boucle. Donc ce que fait la ligne prolongée, elle passe sous la boucle, et la boucle devient un embranchement mort. Et d'ailleurs, on peut la voir quand on prend le métro la ligne 1, il faut se mettre à gauche et après la station Argentine, puis regarder à gauche, là, juste le temps, on voit les. Et on peut même regarder, on voit des rames qui sont garées. Et j'aurais dû penser qu'effectivement, ces rames, je savais que là, il y avait un centre d'entretien, des rames automatiques, mais je ne pensais pas qu'on avait reconstruit la boucle. Parce que les rames qui ont eu un petit dysfonctionnement, vous savez, une porte coincée, on les sort de la ligne 1, elles sortent elles-mêmes d'ailleurs toutes seules. Elles vont se garer sagement et automatiquement dans cette station Porte-Maillot, sur cette boucle, et elles repartent. Elles font le tour complet pour revenir sur la ligne dans l'autre sens. Donc la boucle a été reconstruite en 2012. Cette station Maillot est intéressante puisqu'elle conserve, de part et d'autre de la boucle, toute l'architecture du début. Il y a un très bel escalier avec des rampes en fonte qui débouche sur l'un des deux quais.
Et attention à l'ouverture des portes.
Je suis sur la ligne 7 bis. Je vois une invitation à une journée porte ouverte à la station Pré-Saint-Gervais. Pour l'inauguration du nouveau terminus. Donc un dimanche, je suis à cette journée porte ouverte avec les voyageurs, les usagers de cette ligne qui sont curieux, tout aussi curieux que moi. On se laisse guider par un agent qui nous fait faire le tour de la station. Il nous amène dans le tunnel un peu plus loin, qui sert maintenant d'atelier. On passe dans la fosse sous le métro. Il nous raconte l'histoire du lieu, de la ligne, et du fait que cette voie était reliée à la voie navette et à la voie des fêtes, et qu'il y a une station un peu plus loin qui s'appelle Axo. N'a jamais vu de voyageur, elle n'a même pas d'issue vers l'extérieur. On ne peut s'y rendre que par le tunnel. Piqué à vif, je veux voir cette station. Quelques jours plus tard, je suis sur le quai de la station Place des Fêtes et passe d'abord en métro pour voir l'embranchement, le raccordement qui peut mener à cette station. J'observe que le raccordement est dans un tournant, que le tunnel tourne fortement à droite. Le métro doit ralentir. Il passe vraiment très lentement à l'endroit du raccordement. Et je décide de sauter de la cabine arrière d'un métro en circulation avec des voyageurs. Donc je fais un tour de plus de cette ligne, je m'introduis dans une cabine à l'arrière. Et quand le métro arrive dans ce fameux tournant, j'ai la porte latérale du conducteur qui est ouverte. Et je saute au niveau du raccordement. Et j'avance dans le tunnel. Un tunnel assez long, en courbe. J'avance sur les planches en bois. Repère le troisième rail sous tension, où court 750 volts. Je vois une rame blanche et verte, garée dans une station, une demi-station. Je monte les trois petites marches en fer et je suis sur le quai de la station Axo. C'est une demi-station. Un quai, une voie, un quai avec une voûte, sans issue. Aucune issue extérieure. On arrive et on repart par le tunnel. Seul. Personne ne vient jamais ici, à part quelques agents de la RATP. Le métro est là, sous tension. Et ce petit bruit. Parfois les moteurs se réveillent. J'ai l'impression de toucher quelque chose de précieux. Seul.
Qui est une station désaffectée qui a été fermée en septembre 1939 à l'instar d'autres stations comme Champ de Mars ou Arsenal juste avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une station qui a été inaugurée en 1931 je crois, en fait au moment du prolongement de la ligne à la porte de Charenton. C'était une ligne qui était appelée à desservir l'expo coloniale jusqu'à la porte dorée. Et cette station a reconnu une deuxième vie en 1947-48 où elle a été aussi un laboratoire d'expérimentation de la publicité. Et on trouve des publicités en céramique dans les couloirs, qui étaient effectivement des tests à l'époque. Elle avait été rouverte justement pendant une petite année pour effectivement expérimenter tous ces nouveaux types de publicités.
Oui, l'histoire des carrelages du métro mériterait à elle toute seule, n'est-ce pas, une thèse. Vous avez aujourd'hui encore, vous pouvez voir les tout premiers carrelages, je les ai encore vus récemment, à la station Porte Dauphine. Vous avez ces grands carrelages plats, qui doivent bien faire 25 cm de long sur 18 ou 20 de large. Ils existent encore, c'est les tout premiers. Ce sont des carrelages qui donnent une lumière encore plus terne, encore plus jaunâtre. Là, ce sont les fameuses faïences biseautées qui ont été d'ailleurs mises après la catastrophe de Couronne, vous savez, où la station, il y a eu une panique à la suite d'un court-circuit qui n'était pas très important, mais les gens se sont précipités les uns sur les autres et la station était très sombre. Et on a pensé à ces carrelages qui reflètent la lumière et la diffusent. Et le biseauté du carrelage, vous voyez, donc donne un angle réfléchissant particulièrement efficace. Donc ces petits carrelages qui font 15, je crois, sur 7,5, donc il y en a quelques milliards dans le réseau de la RATP. À un moment donné, ils étaient d'ailleurs devenus un peu le symbole, vous savez, de la fatigue métro-boulot-dodo, qui était quelque chose de complètement injuste dans l'affaire. Ce n'était pas le métro qui fatiguait, c'était beaucoup plus le boulot qu'autre chose. Mais alors, ces carrelages, la RATP des années 1960, après 68 surtout, les a cachés sous d'horribles carrosseries en tôle, que depuis on a eu le bon goût de démonter pour que l'on revienne à ces carrelages qui sont tout un symbole du métro de Paris.
Arsenal. Arsenal est...
Ah, Arsenal, c'est beaucoup plus classique. On peut d'ailleurs l'admirer si on s'y prend bien. Elle est quelque part, vous savez, entre la Bastille et les quais de la Râpée. C'est une station qui a été fermée, je crois, en 1939. On a d'ailleurs beaucoup fermé de stations en 1939. Il y en a eu peut-être au moins une vingtaine ou une trentaine. Et après, on les a rouvertes immédiatement. On pensait en 1939 que la guerre éteindrait toute activité à Paris. C'était l'inverse. Jamais le métro n'a autant transporté, puisqu'il n'y avait plus de pneus, plus d'essence. Et alors le métro a battu un record des transports. Et ça n'a été battu à nouveau que très récemment. Alors Arsenal donc fait partie de ces stations que l'on ferme par précaution en 1939. Aussi parce que dans le fond les conducteurs du métro sont pris, pour la guerre, sont mobilisés. Donc finalement, vous voyez, on manque de conducteurs et on pense que l'économie va s'endormir. Bien entendu, ces stations sont pour la plupart assez rapidement ouvertes dans les mois qui suivent, ou du moins sûres après 1940, une fois que ça se stabilise dans des conditions très difficiles que l'on connaît. Mais à ce moment-là, le métro fonctionne normalement. Immortalisé par Gainsbourg, je crois. C'est le point sonore, n'est-ce pas? C'est le point sonore des Lilas. Alors, cette station-là, elle est double. Il y en a deux en une. On en a deux pour le prix d'une. Parce qu'il y avait effectivement la boucle de la ligne 3 et aussi en même temps la ligne 11. Port des Lilas, il y en a deux. Elle est toujours ouverte. La ligne 11 n'a jamais fermé la moindre station. C'est une ligne extrêmement active. Vous savez, elle va de Châtelet, elle monte au Lilas sur la montagne, elle continue sur le plateau. Alors la station Port des Lilas, c'est l'autre station, celle de l'ancienne boucle, qui aujourd'hui est fermée, mais qui a une vocation tout à fait notoire. Elle sert de station pour les tournages de films. Donc elle passe son temps à changer de nom selon les besoins du film. Mais c'est une facilité qu'offre la RATP donc pour les cinéastes d'avoir une station complète, qui est d'ailleurs jolie, qui a deux quais et deux voies, donc en vis-à-vis. Mais elle ne sert plus que pour ça, vous voyez. Mais vous avez bien une station Port des Lilas, qui est sur la ligne 11 et qui sert tout à fait normalement.
Qu'est-ce que vous ressentez?
Quand je me trouve sur ce quai, je ressens cette impression de douceur de l'enfance. Le métro de mon enfance, vous voyez, ce métro à la fois calme, dans une légère pénombre, dans une sorte de, je dirais, de complicité, d'intimité, finalement. J'ai un sentiment de paix, d'intimité et de sécurité, toujours accentué par ces adorables carrelages sur lesquels on promène le doigt et qui nous mettent à l'abri des intempéries, des voitures glacées. Le matin, il faut démarrer. Pour moi, je suis bien chez moi, dans mon métro. Égoïstement, pardonnez-moi.
Ligne 10, station Sèvres-Babylone. Désert, l'endroit n'est cependant pas silencieux. C'est même ce qui frappe le visiteur. On entend au loin les rames bouger, les freins crisser et les portes claquer. On perçoit le murmure des annonces et les sonneries annonçant le départ des rames. À force d'écouter des murmures, l'espace se renverse et c'est le métro qui devient fantôme. Notre quai abandonné s'emplit de circulation spectrale, d'allées et venues qui ne nous parviennent qu'étouffées, comme le frôlement d'un suaire sur l'escalier d'un château. Une ombre hante Paris, celle du métro disparu. Si l'on s'enfonce encore plus loin dans le réseau, on atteindra de véritables mastabas, des salles muettes, jamais traversées et même jamais raccordées au réseau. Ce purgatoire métropolitain n'a pas de nom. Les stations n'ont jamais été baptisées et leurs murs sont nus. Elles auraient dû s'appeler Élysée La Défense, Orly Sud, Brunesseau Masséna, mais elles sont restées à l'état d'ébauche, chapelle attendant la consécration. Dans ces chambres hermétiquement scellées, la rumeur du trafic disparaît presque complètement pour être remplacée par celle du sol. On entend les nappes s'écouler d'un réservoir à l'autre et la terre bruisser sous les pas. Ce n'est plus les trains qui disparaissent, c'est la ville tout entière. Et la station fantôme devient spatiale, lancée à travers des espaces sombres et minéraux. Drainées par le rail, les antennes relais et les fils haute tension, nos villes impeccablement mises en scène sont émaillées de bras morts et de plages désertes et de grottes abandonnées. Il faut descendre jusqu'à ces criques, entrer dans ces sous-stations électriques qui ne produisent plus rien, monter sur ces quais qui ne voient aucun voyageur et marcher dans les tunnels condamnés. C'est là, dans ces lieux coupés de la circulation, que la ville tombe le masque et laisse couler son maquillage. C'est là, dans les impasses du transport, que l'on peut s'inventer une toute autre ville, ou tout du moins la rêver.
Les stations fantômes sont-elles propres au métro français ? Absolument pas. Le fantôme est une spécialité mondiale, et surtout dans le métro. Londres est un métro très compliqué, puisque le sol est friable. Il a fallu le construire à grande profondeur et construire des tuyaux, le tube, qui donne cette forme caractéristique du métro qui est rond. Les voitures sont rondes, on se cogne la tête, enfin voilà. Et alors, donc il a fallu déplacer des stations, ne pas en achever certaines. On retrouve exactement la même chose. D'autant plus compliqué à Londres, c'est d'autant plus riche en stations fantômes que c'était des compagnies différentes. Nous sommes au Royaume-Uni, rien ne se fait comme ailleurs. Et le libéralisme le plus sauvage, évidemment, favorise toutes les turpitudes, y compris économiques, financières et autres. Donc il y avait différentes compagnies qui faisaient concurrence entre elles, vous voyez. Donc il y a eu des fermetures tout à fait rocambolesques. Un autre métro aussi riche en stations fantômes, c'est celui de Berlin. Parce que le U-Bahn et le Stadtbahn, c'est deux réseaux différents. Là aussi, il a fallu construire, défaire. Et savez-vous que le mur de Berlin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, coupe Berlin en deux et vous égrène tout un chapelet de stations fantômes qui finalement, le métro ne passait pas. Sauf, il y avait deux ou trois stations de passage, où ça passait, je crois, à la Friedrichstrasse, il me semble. Et là, il y avait des vigiles en armes, sérieusement, vous voyez. On contrôlait tout le monde, il fallait montrer ses papiers, et on ne pouvait pas passer, la rame pouvait passer. Vous voyez. Et alors, c'est le métro de l'Est, de Berlin-Est, qui était, je crois, exploité donc par le métro de Berlin-Ouest. Donc Berlin, oui, a créé des stations fantômes.
Le principe de la station fantôme montre que le métro d'une ville évolue.
Complètement. La station fantôme est bien le témoignage de l'évolution des villes, donc forcément, et donc du métro. Ce qui d'ailleurs est en soi une bonne chose, ce qui prouve que le métro sait rester au service des gens et va chercher le trafic là où il existe.
La ligne fantôme, une création en air de Laurent Polleré avec la complicité de Céline Duchesnay, avec Clive Lamming, Jean-Michel Leblanc, Nathalie Lemeur, Fabien Rapp et Philippe Basset. Merci à Karim Boukercha, à Bartholomew Vendeur de De Facto, à Julie Aboué de la RATP, Karine Long-Richard et aux agents de la RATP rencontrés dans les stations fantômes. La nouvelle de Philippe Basset est lue par Céline Duchesnay. Prise de son Clémence Bonfils, mixage Alain Joubert. Attaché de production Shushan Jargayan, coordination Irène Omelianenko. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de France Culture à la page de Création en air.
Cette aventure sonore est disponible en podcast un an, puis en ligne à vie sur le site de France Culture. Demain à 23h dans Création on air, La rivière des parfums. Un voyage en compagnie d'Hélène Pataro, née en 1954 dans un Vietnam en guerre.